parole du jour avec le Père Willem.
Quelle place pour Dieu au cœur de l'échec. Alors que retenir de nos dernières émissions dans la compréhension de l'échec? Il s'agit essentiellement d'une situation de vie, d'un état vécu, plus que d'un état se rapportant à une théorie, bien entendu. La personne en situation d'échec éprouve une dimension fatale de l'existence qui semble a priori annihiler radicalement tout sens, tout projet de vie. L'échec serait appréhendé comme une dimension de clôture de l'existence teintée d'une certaine irréparabilité par rapport à un idéal qui la présuppose et donne à l'homme l'impression d'avoir sa vie en main. L'échec peut donc se comprendre au regard d'un passé qui donne corps à l'avenir et d'un avenir qui s'expérimente actuellement et radicalement comme impossible. Il est de l'ordre d'un état où la personne se vit comme étrangère à elle-même et à son histoire réelle, rêvée ou désirée. Comme le dit le philosophe Jean Lacroix, si la notion d'échec est intimement liée à une dimension personnaliste, l'échec s'impose également comme une donnée non volontaire. L'échec est toujours d'une personne, nous dit Jean Lacroix, ou de ce qu'on lui assimile. Et la personne, c'est ce qui peut se ressaisir, ce qui est capable de reprise, ce qui ne doit jamais rester échoué quelque part. Au cœur de leur désarroi, les hommes et les femmes en proie à l'échec doivent-ils continuer à croire que Dieu y est étranger et estimer qu'il leur faudra porter au niveau de leur foi ces dimensions non assumables, irréparables, d'une décision qui, légitimement ou non, les a mis à l'écart? Doivent-ils se résoudre à une étrangeté de Dieu dans leur vécu subjectif de l'échec? Et Dieu doit-il être condamné à l'impossibilité de s'y révéler? Ouvrir ces quelques questions, c'est accepter d'entrer dans un défi théologique. Il s'agira en effet de mettre au jour certains éléments relatifs au concept de création, eschatologie, alliance, résurrection, afin de considérer en quoi ils peuvent être des concepts ressources pour penser l'homme en situation d'échec. Il n'y a pas d'intelligence de la foi sans réinterprétation créatrice. Oui, finalement, il s'agit de faire en sorte que la révélation soit un événement toujours contemporain, c'est-à-dire non pas la transmission d'un passé mort, mais une parole vivante qui soit interprétante pour les femmes et les hommes d'aujourd'hui. Notre objectif vise tout le monde, espérant toucher le plus grand nombre de personnes possible, y compris celles et ceux rattachés à la foi chrétienne et à sa traduction ecclésiale par un fil tout à fait ténu, pour qu'ils puissent se laisser toucher par certains aspects incontournables de la théologie chrétienne, en y découvrant avec l'horizon qui est le leur des signes bien réels d'une non-étrangeté de ce Dieu, mais aussi de l'Église qui porte la responsabilité de la révélation qu'ils pensaient absente dans leur drame d'existence. Nous commençons ce parcours théologique par le concept de création, qui fait écho à une autre notion très parlante dans le contexte de toute activité humaine, la créativité. Celle-ci rend compte du rapport technique et scientifique de l'homme au réel. C'est par sa créativité rationnelle que l'homme invente, construit, instaure un nouveau type de rapport à la réalité. Il suffit de penser aux greffes, à l'ensemble des techniques biomédicales, aux techniques de procréatique, aux recherches contemporaines en génétique, etc. Le concept de créativité permet également une approche plus essentielle du devenir humain. C'est par la créativité psychologique que l'enfant et l'adolescent s'éveillent au monde. Face à des questions, des situations nouvelles, l'humain se donne d'inventer des manières nouvelles de décider et d'agir au mieux. Il se doit de faire œuvre créative, de renouveler sa manière d'agir face aux évolutions technoscientifiques qui l'interpellent dans des décisions qui engagent plus ou moins lourdement son avenir en différentes dimensions de son existence. Comment penser aujourd'hui l'homme comme être autonome, sujet de création, tout en le sachant partenaire d'un Dieu dont l'alliance le précède? L'affirmation d'un Dieu, et singulièrement l'affirmation d'un rapport entre Dieu et l'homme, infirme-t-elle notre autonomie et plus radicalement notre humanitas? Cette interrogation trouve toute sa pertinence au regard de notre sujet. Lorsque l'humain doit décider au mieux, cela lui est-il effectivement possible? La création, donc, pour dire Dieu et l'homme. Voilà ce que nous voulons développer. Dieu créa le ciel et la terre. Et tout ce qu'il comporte, nous dit le texte de la Genèse au chapitre 1er. Cette insistance sur la création de la part de Dieu évoque un tout autre contexte que celui des écrits mythologiques desquels l'auteur de la Genèse veut se démarquer. On n'est plus dans le registre du hasard, mais bien dans celui de la liberté. Il s'agit d'un sujet qui met en œuvre une action, un projet. Au départ de la vie du monde, se trouve donc posée une liberté, celle de Dieu, qui aurait pu ne pas créer d'ailleurs. Avec ce geste, Dieu met le monde en mouvement, en devenir, selon une intention qui lui appartient, une intention voulue positive. Il vit que cela était bon et très bon. Dans Genèse, chapitre 1er. Par cette dynamique de création, l'Écriture nous donne à penser qu'à travers cette liberté qui se déploie, c'est bien une techné qui est première, antérieure à la nature, puisque celle-ci se trouve visibilité d'existence au regard d'un tohu-bohu, un vide, un rien transformé par un Dieu acteur. En Dieu et par Dieu, la nature trouve toute sa valeur. L'intention d'un geste, d'une action, lui donne sens, ce qui n'est pas sans répercussion anthropologique essentielle. Placer Dieu et son geste de techné, de création, au commencement, c'est dire aussi que la liberté et l'intention sont, en régime de création, de plein droit, et du même coup étrangères à toute notion de mauvaise conscience. La liberté conférée à l'homme n'est donc ni arrachée ni seconde, et se dit dans le geste même de Dieu et de l'ordre d'une invention libre qui se doit poursuivie. Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre, dominez-la, nous dit Genèse chapitre 1er verset 28. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour cultiver le sol et le garder. Voilà, dès le départ, Dieu offre à l'homme une liberté confiée, une liberté réelle attestée, une pleine autonomie s'inscrivant dans sa propre liberté autonome.